Europe 1, Philippe Googler.
Nathalie est là, là.
Oui.
La bête. Je parle pas de vous. Hein.
Non, mais écoutez, vous auriez dit la belle et la bête, mais non, vous avez dit la bête. Bon, écoutez, je m'en vais. Hein.
Non, non, racontez-nous cette histoire absolument effrayante qui nous a tous fait peur quand on était petits.
J'espère que vous frissez. Oui, et ça n'est pas une légende, c'est même plus qu'une histoire, c'est une énigme policière puisqu'il s'agit de la bête du Gévaudan. Ouais. Alors nous sommes le 30 juin 1764 dans l'ancien département du Gévaudan, c'est-à-dire en fait l'ancêtre de la Lozère. Il y a une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Jeanne Boulet qui est dévorée par une bête féroce. On la retrouve, on retrouve le cadavre. Et puis il y a d'autres femmes et puis des enfants, beaucoup, qui sont victimes d'attaques mystérieuses d'une violence rare. Ils sont tous tués de la même façon, déchiquetés ou décapités. On arrive 3 ans plus tard, en juin 1767, on recense entre 88 et 124 morts,
ah oui,
tous tués de cette façon.
C'est
horrible.
Énorme.
C'est énorme, c'est horrible.
On se croirait chez Anglade raconte, là.
Vous me flattez. En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude hein, au départ, parce qu'il faut bien vous dire qu'à l'époque, il y a beaucoup, beaucoup d'attaques de loups. Donc ça passe pour un fait divers. Mais... merci. Mais la gravité des blessures fait qu'on va écarter cette thèse du loup. Donc démarre une sorte de...
qu'un loup
de...
ne peut pas faire ça.
Absolument pas. C'est beaucoup plus inquiétant que cela. Ça ne peut pas être les mâchoires du loup. Donc évidemment, va démarrer une sorte de psychose collective, des rumeurs. On parle d'un animal monstrueux, même d'un tueur en série, ou encore d'une bête dressée pour tuer, ce qui va alerter les autorités. Louis XV, qui est le roi en place à ce moment-là, est sollicité. Il ordonne des opérations de chasse à l'homme, ou plutôt de chasse à la bête. Et commence alors ce qu'on appelle aujourd'hui les plus grandes battues au monde. Des centaines de paysans, de dragons, et des centaines
de dragons.
Des dragons, on appelle ça des dragons, ce sont les soldats de la garde royale. Des centaines de troupes sont mobilisées dans le but de trouver la bête et de la tuer. Avec vraiment tous les moyens possibles mis en œuvre, des armes, des pièges, des techniques d'empoisonnement et bien d'autres encore. Mais la bête maligne leur échappe.
Et la terreur règne dans
la
région.
Et la terreur règne, elle continue ses massacres, elle ne se montre pas à la lumière du jour. Donc les hommes repartent bredouille auprès du roi et la presse s'empare de l'affaire. Vont naître alors en seulement quelques mois des centaines d'articles qui recensent l'incroyable histoire de la bête du Gévaudan. Grâce ou à cause de cet engouement médiatique se crée une description fantasmagorique de cette bête. D'abord identifiée comme un énorme loup et puis finalement elle est décrite comme un animal de la taille d'un veau ou d'un âne avec une grosse tête au pelage touffu, rouge et noir, doté de grandes griffes et d'une agilité incroyable. Elle est diabolique.
Donc, en fait, on n'arrive pas à en venir à bout, c'est...
Non, et d'ailleurs, le roi va expédier la plus fine gâchette du royaume, un certain François-Antoine, pour venir à bout de la bête. Ouais. Il va tuer une bête énorme et touffue qui correspond... Alors attendez, justement, il y a une ruse. Il va tuer une bête énorme et touffue qui correspond à la description. Donc ça fait remonter la popularité du roi. Mais en fait, c'est une imposture. Il n'a pas tuer la bête du Gévaudan, tout simplement, on retrouve d'autres cadavres. Donc, ça veut dire que la bête est toujours en vie. Il a juste eu peur de perdre les bonnes grâces du roi. Donc, il a tué un animal à la description proche.
Et il faut le trouver quand même.
Oui, il fallait le trouver. Mais il faut dire que la région devait regorger de bestioles pas très sympathiques, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, le peuple pleure ses victimes. Le roi, lui, se dit « Bon, allez, ça ne m'intéresse plus », il fait la sourde oreille. Et finalement, un jeune marquis, le marquis d'Apcher, qui est un jeune aristocrate local, organise la battue finale. Il recrute les paysans les plus courageux. Et parmi eux, un certain Jean Chastel, un enfant du pays, qui est très robuste. Hein, c'est un chasseur estimé par les pères, par ses pères. Et il va tuer la bête le 19 juin 1767 de 2 balles. Seulement 2 balles. Et l'animal, une fois à terre, est attaqué avec les chiens de chasse qui accompagnent Chastel. Et confirmation, ça n'est pas un loup normal. On empaille le cadavre, on l'envoie à Versailles, mais il arrive dans un état de grande décomposition, ce qui fait qu'on ne peut pas analyser cet animal. On ne sait toujours pas, des siècles plus tard, ce qu'était cette bête du Gévaudan.
Sauf qu'on sait que ce n'était pas un loup.
Le mystère demeure parce qu'on sait aujourd'hui qu'aucun animal ne peut infliger de telles blessures à un être humain. Donc ça renforcerait la thèse d'une implication humaine dans ces meurtres.
Ah bon ?
Mais oui, il y aurait peut-être eu un tueur en série épouvantable.
Mais alors, quand il a tué l'animal, les crimes se sont arrêtés ?
Ben, quand il a tué l'animal, il n'y a plus eu de crime. C'est comme ça qu'on a su qu'il avait débarrassé le Gévaudan de sa bête.
Oh, quelle histoire !
C'est resté dans les têtes, tout ça.
Ouais, ouais, ouais. La bête du Gévaudan, ça fait encore peur.
Ah, oui, c'est vrai.
Je vous sens frissonner, les amis.
Je crois qu'on va quitter ce studio
la nuit.
Un petit remontant.
Oui, il faudra bien ça. Ouais.
Un petit. On change de registre.
Oui.
Les vers à soie, c'est plus léger, c'est moins dangereux.
C'est de la petite bestiole sympathique, oui. Alors, le Bombyx mori, hein, de son nom scientifique, vous savez, les Cévennes, c'est aussi le pays de la soie, et vous allez voir pourquoi. Alors, c'est vrai que la soie, elle est née plutôt en Chine, hein, il y a très très longtemps. Mais dès le Moyen-Âge, on a filé la soie dans les Cévennes. Et c'est d'ailleurs sous le règne d'Henri IV qu'il y a eu un véritable essor. Parce que la soie venue d'Italie était si chère qu'il fallait absolument en développer en France. Donc on a planté des mûriers blancs, je dis bien blancs. Les fruits ne sont pas comestibles, mais ça nourrit ces fameux vers à soie. Et on a installé ce qu'on appelle des magnaneries, c'est-à-dire des espaces réservés à l'élevage du ver à soie. J'ai une petite anecdote très amusante, c'est qu'on faisait éclore les œufs de ver à soie grâce à la chaleur humaine. C'est-à-dire que les femmes portaient les œufs sous leurs vêtements ou alors elles se mettaient au lit avec les œufs de ver à soie pour leur servir de couveuse.
Ah bon ? Mais elles couvaient les vers à soie ?
Oui, les cévenoles couvaient le ver à soie. Alors les vers se développent en 5 semaines, ils dévorent ensuite une quantité impressionnante de feuilles de mûrier et puis ensuite ils vont filer leur fil, faire ce qu'ils ont à faire. Et ensuite on va tirer de tout ça des cocons qui vont être filés. Enfin bon, ça a été une industrie essentielle pour la région, qui a duré jusque quasiment la première moitié du XXe siècle. Et puis, ça s'est arrêté. Hélas.
Hélas, oui, parce que du coup, les villages sont devenus un petit peu plus morts, un petit peu plus déserts.
Triste.
Un petit peu plus triste. Mais il y a quand même toujours une vraie très belle ambiance dans les Cévennes. On continue dans un petit instant à découvrir cette région mystérieuse avec ses légendes et ses paysages parfois désolés. Et puis on va goûter ce qu'on y mange aussi dans un instant avec Olivier Poulx. Ça tout de suite sur Europe 1.